La marche du monde. Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes, acteurs et témoins de l'histoire.
Pourquoi j'ai pu dépasser le CM2, avoir le bac, avoir le CAP, avoir le BSN, devenir enseignant à l'université jusqu'à devenir recteur, alors que je viens d'une famille paysanne? Qu'est-ce qui a rendu cela possible? C'est ce que j'appelle l'école publique.
Enfant de paysan au temps de l'Afrique occidentale française, Ibrahima Thioub est choisi par son père pour intégrer l'école de la République en 1962, dans un Sénégal tout juste indépendant. Conscient du sacrifice de sa famille, le jeune homme se révèle à la hauteur de l'investissement et gravit un à un tous les échelons du système scolaire, jusqu'à devenir instituteur, puis professeur et chercheur en histoire et enfin recteur de l'université de Dakar, une consécration. Ibrahima Thioub à l'école de la réussite, c'est le premier épisode de notre documentaire consacré à un enseignant hors norme avec lequel nous reprenons le chemin de l'école.
S'il vous plaît, est-ce que je suis venu au lycée, à l'école Tafsir de Massal, l'école primaire de l'activité? Je
suis
venu à l'école. Je suis venu à l'école.
Je suis venu à l'école.
Une mosquée bi fofu amna yone toujours. D'accord, merci
beaucoup.
Allez, Boubacar, dangay tourner à gauche. Ces rues, elles me connaissent. C'est là où on passait pour aller à l'école primaire à pied, juste dans cette rue-là. Boubacar, est-ce que dinañ mëna jadd dugni apa?
Où est-ce que vous nous emmenez, Ibrahima Thioub?
Là, nous sommes en train d'entrer dans la ville de Mbour. J'y suis entré la première fois à l'âge de 7 ans, en octobre 62. C'était à dos de jument, avec mon grand frère qui me conduisait. Entre nous, un petit baluchon contenant mes habits. Et il me déposait dans un quartier qui s'appelle 11 novembre, et où je devais démarrer mes études primaires. Donc on est en train d'entrer dans cette ville aujourd'hui. Et je venais d'un village qui était à l'époque à 7 km de Mbour et qui est en passe d'être aujourd'hui absorbé par la ville.
Vous vous souvenez du sentiment qui était le vôtre, petit garçon de 7 ans, pour sa première rentrée scolaire?
Je ne savais pas ce qu'était l'école moderne, j'allais dire l'école française. Parce que je venais du Dara, de l'école coranique. Et donc, ce matin-là, d'octobre 1962, je n'appréhendais pas où j'allais. Tout ce que je savais, c'est que en allant à l'école, j'allais pouvoir parler français. Et on me disait que si je sais parler français, mon père ne paierait plus l'impôt. Je pense que c'était quelque chose qui venait de l'époque coloniale. C'était tout ce que j'ai retenu de ce début de scolarisation.
Vous voulez dire qu'à quelle époque, Ibrahima Thioub, même 2 ans après l'indépendance, il y avait toujours cet héritage colonial?
Ah oui, je pense qu'elle était très présente. En tout cas, dans le village où j'étais, aller à l'école, c'était une promesse de changement de statut. La maîtrise du français permettait d'obtenir, en tout cas, une probable promotion sociale, mais qui, à mon âge, n'était pas visible. J'étais enthousiaste de quitter l'école coranique, puisque ce n'était pas de la dentelle. Il y avait des punitions, des châtiments corporels qui étaient infligés aux élèves de l'école coranique. Et il était difficile d'y échapper, même si on était un bon élève, parce qu'il s'agissait de mémoriser le Coran et j'avais une très bonne mémoire. Faire pour aller à l'école annexe, mon école primaire. Oui, d'accord. Donc vous allez continuer tout droit. C'est là, c'était des champs à l'époque. La ville s'arrêtait loin de, très loin d'ici.
À l'époque, venir à Mbour pour la première fois à dos de jument avec votre grand frère Abdoulaye, ça voulait dire venir à l'école. Dans votre imaginaire, est-ce que c'était venir à l'école des Blancs à l'époque ?
Non, à proprement parler, non. C'était venir dans une école autre que l'école coranique. Les maîtres étaient des Sénégalais. Les élèves l'étaient également, donc on était dans une ville sénégalaise. Il n'y avait pas ce sentiment d'extériorité, mais c'était aussi apprendre une langue, mais une langue étrangère cette fois-ci, le français, et qui était une langue en tout cas fascinante, puisque c'était une langue de distinction. Je me souviens très bien, disant à mes promotionnaires de l'école coranique, je vais aller apprendre le français et à mon retour je vais vous parler et vous ne comprendrez pas ce que je vais vous dire. C'était ça mes attentes, de pouvoir aller à la ville, apprendre une nouvelle langue, une langue qui était une langue de promotion sociale, puisque j'aurais pu apprendre une autre langue locale, le sérère ou le poulard, mais c'était le français qui faisait une différence très nette entre moi et ce que j'ai laissé à l'école coranique.
Le retour à l'école hein, primaire.
Oui. Quand j'y étais en 62, ça s'appelait l'école annexe de Mbour.
On va aller dire bonjour.
Oui, allez.
On va demander l'autorisation d'aller s'asseoir en classe,
oui,
à l'endroit où vous avez reçu vos premiers enseignements français.
Oui. Alors, bonjour.
Bonjour.
Monsieur Tchoub. Monsieur le recteur.
Oui.
Ah, monsieur Tchoub, vous allez bien?
Ça va bien.
Ça va bien, merci.
Vous êtes monsieur?
Monsieur Djey Hassan.
Hassan Djey.
Oui, oui, oui.
D'accord, vous êtes le directeur
de l'école. Oui, je suis le directeur de l'école Tafsir Dembassal. Ça va?
Bonjour, madame. Monsieur.
Merci. Voilà, madame, vous allez bien?
Je vais très bien, merci. Ouais,
merci.
Vous,
et vous, ça va?
Ça va très bien.
Le soir, il est bienvenu.
Voilà, on fait un portrait de monsieur le recteur, donc on revient sur les lieux mêmes où il a reçu ses premiers enseignements en français.
C'est ça.
Vous êtes un ancien élève de l'école.
Ah, vous avez fait vos débuts ici?
Oui, j'ai fait des CI au CM2.
Ah, ok.
Ici, donc avec dans ce bâtiment-là.
Dans ce bâtiment.
Ma classe de CI, c'était le premier bâtiment et d'accord. Le CM2, c'était le dernier.
Ah,
donc,
d'accord.
J'ai fait l'école primaire ici.
Ah, d'accord.
À l'époque, il n'y avait pas de mur.
C'était une école d'excellence. Okay. Voilà. On avait les meilleurs élèves de la commune ici.
Ouais.
Ouais, ouais. Et les meilleurs maîtres aussi.
Les meilleurs maîtres.
Franchement.
Moi, j'ai connu des maîtres ici. Ouais. Je garde en souvenir M. Gaï, bien sûr. Et un autre maître qui m'a marqué, vraiment, c'est Soter Lopez. Pour une raison très simple, c'est qu'à l'époque, on étudiait le samedi. Mais lui, il était un joueur de football dans le championnat national. Donc le samedi, il amenait la radio en classe, il nous laissait la radio en classe, et puis lui, il allait jouer à Dakar. Parce qu'il jouait à l'équipe, je crois, de Gorée. Et donc, nous, on écoutait la radio. Et les reporters transmettaient
le
film du match. Et puis, quand on entendait le nom du maître, Soter à la balle, toute la classe explosait. Okay. On se mettait à faire du bruit. Et les autres maîtres venaient nous mettre en discipline en disant « Vous vous taisez, sinon on ferme la radio. » Mais nous, on aimait entendre le nom de notre maître tous les samedis parce qu'il était parti. Et je l'ai perdu de vue après. Donc je garde ce souvenir de cette école qui m'a marqué mes six premières années. L'école à côté de la mer, on allait voler du poisson chez les pêcheurs, les poissons fumés.
C'est de bons souvenirs. C'est de bons souvenirs.
Voilà. Et je suis revenu également comme instituteur.
Est-ce que vous nous autorisez, monsieur le directeur, à aller revoir la classe de Ibrahim Mathieu?
Il n'y a pas de problème. Avec plaisir.
À l'époque, ce bâtiment-là n'existait pas.
Mais
quand j'étais élève, il
n'y
avait que ce bâtiment.
Alors, ça, c'est M. Bantu. Il fait partie de l'équipe pédagogique. Donc, vous le reconnaissez, c'est le recteur de l'université, M. Tchibou. Alors, vous pouvez reconnaître votre classe, là
J'ai fait toutes les classes.
À toutes les classes. Ouais. Maintenant, c'est devenu une classe de CM2.
C'est des élèves de CM2.
En classe d'examen.
J'aurais dit qu'ils sont en CI.
Ah bon?
Ça ne fait pas très, très grand, hein?
Oui, oui,
c'est ça. Nendef, ça va? Asseyez-vous.
Monsieur Thiebou, il a fait ses débuts ici en tant qu'élève, n'est-ce pas? Donc, actuellement, c'est le recteur de l'université, Cheikh Anta Diop de Dakar. Vous le reconnaissez?
Non.
Ah, voilà.
Moi, j'ai commencé le CII dans cette classe. Je me souviens même de l'endroit où j'étais assis. Moi, j'étais assis à la troisième rangée, donc je devais être ici. Quand j'étais en classe de CII, je devais être à cette table-là. Et le maître était assis de ce côté.
Ah ouais.
Et donc, la classe était derrière. Comme j'étais très petit, on m'avait mis avec les petits devant. Et je garde le souvenir d'avoir été sur la même table que quelqu'un qui s'appelait Moussa Sen. Je me souviens de lui. Il écrivait avec la main gauche. Et à l'époque, c'était interdit. On n'avait pas le droit d'écrire avec la main gauche. Un jour, il écrivait avec la main gauche et le maître est venu par derrière. Il l'a giflé et la plume, parce qu'à l'époque, on n'écrivait pas avec des stylos, on écrivait avec une plume, avec de l'encre et un buvard. Et sa plume est tombée de très loin et je me suis mis à pleurer. Et le maître m'a dit, mais pourquoi tu pleures? J'ai dit, mais vous m'avez frappé. Il a dit, non, je ne vous ai pas frappé, j'ai frappé votre voisin. Le coup était tellement fort que je crois que le coup était tombé sur moi. Et je me suis mis à pleurer. Donc, c'était dans cette classe et j'étais assis ici.
Ici, à la place de monsieur. Comment vous appelez-vous?
C'est Naoumar Khan.
C'est Naoumar Khan.
Oui.
Et qu'est-ce que tu veux devenir quand tu seras grand?
Un footballeur.
Vous voulez devenir footballeur? Et qui est votre footballeur préféré?
Sadio Mané.
Ah, Sadio Mané. Tu veux devenir comme Sadio Mané? Sadio Mané, il joue à quelle équipe?
Sénégal.
Ah, d'accord. Et dans quel club?
Liverpool.
Liverpool. Il porte quel numéro? Quel est le numéro de son maillot?
19.
Et vous avez déjà le maillot.
J'espère que tu maîtrises aussi bien l'arithmétique et la géométrie. Hein? Comme tu maîtrises bien Sadio Mané, il faut aussi bien maîtriser l'arithmétique et la géométrie. Hein? Bien. Donc... voilà.
Merci.
Qui veut devenir enseignant à l'université?
Plein de filles. Hein,
plein de filles qui veulent devenir enseignant à l'université et devenir recteur. Comment s'appelle le directeur de votre école? Monsieur Hassan Diey, c'est le directeur de l'école. À l'université, le directeur s'appelle recteur. Et donc, moi, j'ai commencé ici, en classe de CI. Je suis devenu instituteur, j'ai enseigné à l'école primaire, à Thiès. Ensuite, j'ai enseigné au lycée des jeunes filles, lycée John Fitzgerald Kennedy à Dakar, au lycée de la Fosse, au lycée Lamine Gueye. Et après, je suis allé à l'université au département d'histoire où j'enseigne l'histoire et j'ai fait des recherches en histoire. Et après, je suis devenu le recteur de l'université de Dakar, l'université Cheikh Anta Diop. Vous connaissez Cheikh Anta Diop?
Oui.
Moi, il a été mon prof. Il a été mon professeur. Et il m'a enseigné l'égyptologie, c'est-à-dire les sociétés de l'Égypte ancienne, les pharaons. Vous connaissez les pharaons? Bon, vous le connaissez mieux dans la religion. Comment on appelle le pharaon dans la religion? Vous n'avez pas été à l'école coranique? Qui a appris le Coran ici? Qui a été à l'école coranique? Man ngeen tari al-Quran? Kan mo fi meuna tari al-Quran? Ban sal nga meuna tari? Yo? A ci waxal ma degi?
قل الله كفوا أحد.
Alors, on est séduit par cette belle voix. Moi, j'ai appris l'école coranique, j'ai appris le Coran à l'école coranique, mais je n'ai pas une aussi belle voix, n'est-ce pas? Bon, allez, je ne vais pas vous embêter plus longtemps.
Merci beaucoup. Hein?
Merci beaucoup. Allez, au revoir.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci d'être là.
Vous avez vu, sa présence ici vraiment est d'une importance capitale, parce que vraiment, ça permet aux élèves de savoir que dans l'avenir, ils peuvent devenir quelqu'un.
Je peux vous demander votre nom?
Oui, mon nom, c'est Ismaël Diouf. Ça fait maintenant 4 ans que je suis là. Donc, je suis le maître du CM2.
En CM2, quel est le niveau de français des élèves?
Bon, quand même, par rapport aux autres écoles que j'ai eu à faire, je vois qu'ici, dans ce milieu, on voit que le niveau est un peu faible quand même. Donc, effectivement, il y a des problèmes de langue. Mais on voit que on doit donner le message en français. Mais il y a des situations, des fois, on peut utiliser la langue wolof pour faire passer le message. L'essentiel, c'est qu'au finish, que l'enfant puisse comprendre ce que nous leur enseignons.
Face à l'océan, Ibrahim Atioub me raconte comment il a appris à nager, lui qui n'avait jamais vu la mer. Il évoque aussi l'immersion forcée dans le bain de la langue française et l'interdiction de parler en langues africaines dans la cour de récréation sous peine de punition. Mais l'un de ses plus beaux souvenirs reste la découverte de la lecture, car le recteur de la plus grande université africaine au sud du Sahara n'avait jamais vu de bibliothèque avant d'être scolarisé à Mbour, situé à 7 km de Malikunda, son village natal.
Ma découverte de la lecture relève d'un pur hasard de me retrouver dans une bibliothèque, la bibliothèque des prêtres de Mbour. Et là, j'arrive, je découvre énormément d'ouvrages qui différaient avec les manuels que j'avais l'habitude de voir. Je suis bien tombé parce que c'était un livre très passionnant. C'était L'Africain de Guy Descartes, le tome 1. J'en ai dévoré des pages immédiatement. Et à 18h, le prêtre a voulu fermer la salle de lecture. Je lui ai dit si je pouvais être enfermé dans la salle. Il m'a dit non, tu peux amener l'ouvrage à la maison. Tu le ramènes quand tu auras fini de lire. J'ai ramené l'ouvrage à la maison. La nuit, je me suis mis à la bougie, à continuer à dévorer le livre. Je l'ai terminé dans la nuit. C'est comme ça que j'ai découvert la lecture après la classe de 5e. Et ça a été une rupture. Quand je suis rentré au lycée en classe de 4e, immédiatement, j'ai commencé à fréquenter la bibliothèque du lycée. Et là, ça améliore mon niveau de français. Je faisais moins de fautes à la dictée. Les rédactions étaient plus aisées. Je ne les pensais plus en wolof pour les traduire en français. Là, je pensais directement en français à partir de la lecture. Et donc, tout de suite, les élèves ont commencé à dire, mais il était le plus fort en maths. Maintenant, s'il fait moins de fautes en dictée et a de meilleures notes en rédaction, c'est sûr que plus personne ne pourra le doubler. Il sera toujours premier de la classe. Voilà, c'est là où je découvre la lecture.
Alors, si je calcule bien, Ibrahim Atioub, en 68, vous étiez vraiment un tout petit garçon.
13 ans.
Vous aviez...
13 ans.
Quel souvenir personnel vous gardez de 68? À l'époque, vous êtes à Mbour, ici, justement. Mm-hmm. Nous sommes à peu près à une heure et demie de voiture, mm-hmm. De Dakar.
Oui, ce vigigarde de 68, donc c'est le souvenir de cet empêchement à faire notre entrée en 6e. Un jour, les élèves du cours normal, qui va devenir l'école normale, sont venus nous déloger, nous faire sortir des classes pour dire que c'est la grève. On est rentré chez nous et puis on nous a dit, bon, l'école est terminée, on était au mois de juin. Le deuxième souvenir que je garde, c'est qu'en rentrant au village, j'ai trouvé un camion rempli de paysans armés d'arcs, de flèches et autres. Je ne savais pas à quelle fin. Mais plus tard, ce souvenir m'est revenu que ces paysans étaient mobilisés pour aller casser de l'étudiant en grève à Dakar.
Par Senghor.
Oui, par Senghor. Ça, c'est un souvenir que je garde également de 68.
Alors, il faut préciser, Ibrahima Tioub, que nous venons d'entrer dans la cour même du lycée de Mbourg. Mais à votre époque, ce n'était pas encore un lycée, puisque c'était l'école normale, c'est-à-dire l'école où vous avez reçu votre formation d'instituteur. Et autour de nous se trouvent encore tous les bâtiments où vous avez vécu cette grande époque.
Oui, il y avait l'internat, c'est-à-dire là où les étudiants, les élèves résidaient et passaient la nuit. Et en dessous, il y avait le restaurant. Et puis il y avait le foyer où on allait danser, écouter la musique, regarder la télévision. C'était les premières années de la télévision au Sénégal. Je me souviens, la première fois, ce sont les élèves qui ont supprimé leur dessert pour acheter le téléviseur. On l'avait fait à l'occasion du match de boxe qui s'était passé au Zaïre à l'époque entre Mohamed Ali et Forman. On avait également un tourne-disque 45 tours, 33 tours. On dansait beaucoup à la salsa, la musique afro-cubaine.
Ibrahima Tioub, nous sommes après 1968 et ça a été un mouvement de libération pour l'université sénégalaise. Les étudiants à l'époque ont pris la parole, ils se sont conscientisés, ils se sont politisés et ils ont aussi favorisé l'africanisation de l'enseignement ici au Sénégal. Est-ce que vous, cette jeune génération d'instituteurs formés dans les années 70, ici à l'école normale de Mbourg, vous étiez dans cette conscience-là ?
Oui, nous sommes en fait la génération qui a été éduquée par les 68ards. C'est-à-dire que nos professeurs avaient participé au mouvement de mai-juin 68 et c'est dans cet esprit qu'ils nous ont éduqués. Je me souviens de nos professeurs, les Mamadou Ndoye, les Moussa Kane, qui ont été les initiateurs des syndicats de gauche au Sénégal avec d'autres de leurs camarades. Et ils avaient fait mai 68 en tant qu'étudiants. Et nous, quand on arrivait à l'école normale des instituteurs en 72, c'était eux les profs. Et particulièrement les professeurs de philo étaient en pole position. Je me souviens, nous, on a appris le marxisme, le matérialisme dialectique, matérialisme historique, toute l'histoire du mouvement ouvrier en cours de philo. On était des révolutionnaires en herbe, prêts à prendre les armes pour libérer l'Afrique, la guérilla. On suivait au jour le jour la chute de Saigon. Par contre, nous sommes aussi les élèves de l'école élémentaire qui étions contre mai 68.
Pourquoi ?
Parce que mai 68 nous a trouvés en classe de CM2. C'était pour nous l'année de l'entrée en 6e, du concours d'entrée en 6e. Si on le ratait, on restait à l'école primaire. Et l'école primaire, c'était aussi les châtiments corporels. Donc en réussissant à l'entrée en 6e, on passait au lycée, on devenait grand. Et les 68ards nous empêchaient de faire notre concours. Et en cela, nous leur en voulions.
Vous écoutez RFI. Du monde, Valérie Néglon.
Seconde S0E. Voilà, on a une visite surprise aujourd'hui. Le nom, monsieur Ibrahima Tioub, ça vous dit quelque chose? Oui? Oui? Quoi?
Votre école est dirigée par qui est le responsable, le premier responsable de votre école? On l'appelle comment?
Proviseur.
À l'université, on l'appelle? Recteur. Moi, je suis le recteur de l'université chez Anta Diop de Dakar. Et vous êtes prêt pour revenir à l'université chez Anta Diop de Dakar?
Oui.
À la faculté des sciences et techniques?
Oui.
Ou en médecine?
En médecine.
En médecine, vous voulez tous être des médecins?
Oui.
En agronomie?
Agronomie.
Ah, mais c'est très bien. Et vous êtes en classe de seconde?
Oui.
Seconde S.
Oui.
Faut surtout pas virer. Faut pas aller en L. Il faut rester en S. Surtout vous les filles. Vous savez, si vous restez en S, vous savez ce que ça veut dire? Vous avez tout de suite une bourse. C'est automatique. Donc, il faut y rester jusqu'en terminale. Parce que le pays a besoin de bacheliers de la série scientifique pour devenir des agronomes, des médecins, des ingénieurs, des mathématiciens de haut niveau, surtout les filles. Il ne faut pas qu'on vous dise, non, vous êtes une fille, vous allez partir, il faut aller faire S2. Non, non, vous restez en S1. OK? Ça demande beaucoup de travail, énormément de travail. Mais vous allez être récompensé si vous avez un bac S. OK? Très bien. Et vous savez pourquoi je viens visiter votre école? Parce que j'ai fait ma première dans cette classe. Donc j'étais là de 1972 à 1976. Vous êtes né en quelle année?
Hein? En 2000.
2000. Vous êtes né hier soir? Bon, en 2000, moi, j'étais déjà enseignant à l'université. Ah, c'est la responsable de classe. Comment elle s'appelle?
Je m'appelle Fatim Khan. Mais j'aimerais bien vous poser une question. Est-ce que on n'est pas dans une situation difficile avec les grèves et tout?
Votre prof n'est pas en grève. C'est déjà une chance. On vous a trouvé en classe en train d'étudier. Je vais vous dire ce que je pense de la grève. Comme étudiant, j'étais un très grand gréviste, mais j'étais aussi un très grand carriériste. J'étudiais très sérieusement. Quand les étudiants étaient en grève, je faisais partie des organisateurs, mais dès qu'on avait fini l'organisation, j'allais en bibliothèque et je travaillais. Et je travaillais dur. Je travaillais dur parce que j'étais l'espoir de ma famille. Moi, je suis le premier bachelier de ma famille et le deuxième, c'est mon fils. Je viens d'une famille très défavorisée. Je suis né à Malikunda, pas loin d'ici, à Tchouben. Et donc, je viens d'une famille paysanne. Donc, si je réussis à l'école, ça va être un grand soutien pour ma famille. Et très jeune, j'en étais très conscient. Donc, il faut avoir cette conscience d'abord. Travailler, c'est dur, mais il faut le faire. On vous dira, non, personne ne peut réussir ici. Si, il y en a qui réussissent et on peut réussir. N'attendez pas toujours tout de vos professeurs. Il faut vous-même prendre l'initiative d'étudier, même quand dans les situations où les enseignants sont en grève, vous vous mettez au travail et vous continuez à travailler. Et vous vous mettez en groupe, vous vous aidez les uns les autres. Et je suis sûr, si vous bloquez sur quelque chose, vous appelez votre professeur, en pleine nuit, il va vous répondre et vous dira quelle est la solution. Donc n'arrêtez jamais de travailler. Je venais d'une famille. Si on m'avait laissé simplement avec ma famille, c'est-à-dire si j'étais à l'école aujourd'hui, je n'aurais pas dépassé le CE2. Pourquoi j'ai pu dépasser le CM2, avoir le bac, avoir le CAP, avoir le BSN, devenir enseignant à l'université jusqu'à devenir recteur, alors que je viens d'une famille paysanne? Qu'est-ce qui a rendu cela possible? C'est ce que j'appelle l'école publique. Si j'ai réussi à l'école, c'est parce que l'école offrait les conditions pour permettre à un fils de paysan de réussir. En faisant quoi? C'est des choses très banales que je vais vous dire. Moi, j'ai réussi à l'école parce que quand je suis arrivé la première année en 1962 à l'école annexe là, tout près, on m'a donné une tenue kaki, une culotte et une chemise kaki. Ça vous fait rire. Mais puisque tous ont porté le même habit, il ne restait plus que la compétence intellectuelle pour réussir. L'école publique éliminait les différences sociales venant de nos familles. Et c'est en participant à éliminer ces différences sociales que l'école publique me donnait les moyens de compétir avec le fils du député qui était dans la même classe que moi. Aujourd'hui, quand vous êtes issu d'une famille défavorisée, vous ne pouvez pas être dans la même classe que le fils du député. Le fils du député, il est ailleurs. Donc, on doit penser à vous qui venez de ces familles-là
et qu'on vous donne les mêmes enseignements, qu'on vous donne les mêmes chances de réussir. C'est pourquoi moi, je crois à l'école et à l'école publique et je me bats pour que l'école publique triomphe. Parce que c'est l'école publique qui a réussi à faire du fils de paysan que je suis le recteur de la plus grande université francophone d'Afrique au sud du Sahara. Ça, cette école-là, on n'a pas le droit de la sacrifier. L'école qui peut transformer du bois en or, on ne doit pas la sacrifier. Moi, je suis né bois. Aujourd'hui, je peux dire peut-être que je suis du diamant. Le mérite ne me revient pas. Le mérite revient à l'école publique. Les maîtres de l'époque, ils nous ont vraiment enseigné. Ils nous ont vraiment instruits. Ils nous suivaient jusque dans nos maisons. Jusqu'à la maison, ils venaient voir comment on étudiait. Et je pense que tôt ou tard, on reviendra à cette école et on aura moins de grèves et les élèves réussiront mieux et le Sénégal s'en sortira économiquement. C'est tout le mal que je souhaite à votre génération. En tout cas, moi, la mienne, elle a été bien formée et je remercie tous les maîtres qui ont contribué à cela.
Joseph Diagne, vous êtes le directeur des études du lycée de Mbour. Nous sommes allés dans l'école primaire de Mbour et l'instituteur expliquait qu'il jonglait beaucoup entre le français et le wolof pour pouvoir faire passer les connaissances qu'il doit faire passer aux élèves. Comment ça se passe au niveau du lycée ?
La situation est quasiment pareille, hein, il faut le dire, parce que la langue locale, le wolof, voilà, c'est tellement bien incrusté que... On est malheureusement, bon, quand je dis malheureusement, c'est d'un point de vue purement professionnel, on est malheureusement obligé de composer avec. Du coup, voilà, on n'hésitait pas des fois à avoir recours justement à nos langues locales.
Alors comment ça se passe au niveau des examens du coup ? Parce que si l'enseignement à l'oral est dispensé à la fois en wolof et en français, comment les étudiants abordent les examens écrits ?
Le système d'évaluation est naturellement donc par rapport à la langue française, qui est la langue, comment dire ?
Justement, qu'est-ce que c'est que cette langue française pour vous enseignants aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'elle représente ?
Ça fait partie du système. Voilà, nous sommes dans un système d'enseignement qui nous impose donc comme langue officielle le français. Donc nous sommes, nous sommes obligés de nous y conformer.
Mais est-ce que c'est de plus en plus difficile ? Parce qu'à vous entendre, on a le sentiment que c'est pas simple.
J'avoue que c'est la tendance actuellement. On sent que voilà, les jeunes ont tendance à s'éloigner davantage de cette langue. En fait, c'est le système éducatif en tant que tel qu'il faut revoir. Mais bon.
C'est-à-dire repenser les langues de l'enseignement, en tout cas pouvoir en débattre.
Oui, oui, pouvoir en débattre, même si c'est pas demain la veille, malheureusement. Ça, il faut le reconnaître.
Mais on va poser la question au recteur.
Si l'école républicaine doit contribuer à effacer les inégalités sociales pour donner les mêmes chances à tous les enfants de la République, si la langue de l'école n'est pas la langue de plus de 80% des familles qui envoient leurs enfants à l'école, on a là une source d'inégalité absolue des chances que l'école républicaine doit combler.
Est-ce que cela veut dire, Ibrahima Thioub, qu'au XXIe siècle, le français, c'est la langue de l'élite au Sénégal ?
Non seulement c'est la langue de l'élite, mais l'élite l'utilise comme outil de distinction et de mise à l'écart de la majorité de la population, sans peut-être même s'en rendre compte.
Et vous, Ibrahima Thioub, vous parlez combien de langues ?
Je parle couramment et très bien le wolof, que j'ai appris également à mes enfants, qui, tout en étant aujourd'hui une journaliste et un médecin et un électromécanicien, sont quasiment incapables de me parler français. On parle wolof dans la famille. Je parle français, anglais. Je baragouine un peu de sérère, un peu de poulard. Donc, comme tous les Africains, je suis multilingue.
Il Nous sommes au Sénégal, sur les chemins de l'école publique, mais aussi coranique, car c'est le premier enseignement reçu par Ibrahima Tioub lorsqu'il était enfant, au village de Malikounda, à 7 km de Mbour, loin de l'agitation de la capitale, Dakar. C'est ici que celui qui est devenu un grand historien internationalement reconnu retrouve les traces de l'enfance et la peur du maître, un premier enseignement où la rigueur se conjugue avec la méthode du par cœur.
J'essaie de lire, déchiffrer, réciter des versets du Coran avant d'avoir été à l'école à l'âge de 7 ans. Mes autres camarades avec qui j'étais dans la même école coranique ont continué, eux, à apprendre le Coran jusqu'à mémoriser la totalité du Coran. Moi, j'ai mémorisé juste les premiers versets.
Votre quotidien ici, dans votre communauté villageoise, à l'époque, donc à la fin des années 60, au début des années 70, il vous en reste évidemment ce souvenir très très fort de l'école coranique, puisque nous sommes sur les lieux mêmes où vous avez récité, appris par cœur les versets du Coran sous le manguier du village. Mais c'est aussi une vie de cultivateur, c'est-à-dire que très petit, vous êtes allé au champ avec votre père. Ça se passait comment? Vous en gardez quel souvenir?
Oui, le souvenir qu'on en garde, c'est les activités saisonnières. L'hivernage, c'est la période la plus dure. Les corps sont fragiles, mais c'est le moment aussi où on travaille le plus durement. Il faut aller au champ, désherber, semer, désherber, démarrier, s'occuper vraiment du champ. C'était les activités réservées aux enfants. Après les récoltes, il faut ramener au village les produits de l'activité agricole. Là, c'est le moment également le plus agréable, la fin des cultures, c'est le moment des récoltes, on peut manger à sa faim, les nouvelles récoltes sont arrivées, c'est le moment où on reprend des forces, on joue, on va à la chasse, on joue au football, la lutte, on peut découvrir la brousse, les autres villages, c'est des rencontres, des jeux traditionnels, mais aussi des jeux modernes, football, et tout ça est mélangé. Et donc, on a grandi dans cet espace. L'école française, ça a duré d'octobre à juin, et en juin, on revenait au village pour repasser l'hivernage, et en octobre, je retournais en ville. Donc, je faisais la navette. Et moi, j'adorais être à l'école, parce que ça m'épargnait des travaux champêtres.
À l'époque, qui vous encourageait le plus justement à faire des études et à faire de bonnes études à l'école publique?
Moi j'ai été un enfant confié au petit frère à mon père. Et le petit frère à mon père avait fait la Deuxième Guerre mondiale. Il avait été prisonnier allemand. Et au moment où il a été fait prisonnier, il était avec d'autres soldats. Et les Allemands leur ont demandé qui d'entre vous a été à l'école. Il y avait un qui avait le CEP. Les Allemands l'ont mis dans une voiture. Ceux qui n'avaient pas été à l'école marchaient. C'est ça qu'il nous a raconté quand il est revenu de la guerre. Donc c'est le jeune frère à mon père, Mbaye Tioub, qui a été un ancien tirailleur et prisonnier de guerre allemand. Lui nous encourageait énormément. Chaque fois qu'on avait fini une composition, on amenait les résultats. Quand quelqu'un avait une mauvaise note, il disait que tu ne seras pas dans la voiture. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune case dans le village. Et on est à l'âge des paraboles. On a ici des paraboles maintenant sur les toits de toutes les maisons. Et toutes les maisons sont en dur. Et je me souviens, à l'intérieur des chambres, c'était tapissé de photographies achetées auprès des commerçants libanais représentant les premiers âges de l'islam.
Et à l'extérieur, les enfants, lorsque vous sortiez dans les cours?
Oui, on avait exactement le même décor qu'aujourd'hui. Là-bas, à ce niveau, il y a très peu de modifications. On était à l'ombre du grand baobab qui est au milieu de la concession familiale. On s'y asseyait, on y mangeait tous les repas, sauf le repas du soir qu'on prenait devant la chambre de mon père, qui était la plus grande case. Soit c'était des moments de conte ou de devinette où on se retrouvait pendant la saison sèche particulièrement à la place du village pour organiser des séances de lutte ou la journée jouer au football ou à des jeux traditionnels.
Vous vous comportiez comment, vous, avec les autres enfants? Vous étiez plutôt un leader, plutôt un peu dans votre coin? Ça se passait comment?
Non, j'étais plutôt un enfant plutôt timoré, pas trop taquin.
Ça a changé, hein?
Oui, ça a beaucoup changé. Je crois que c'est l'internat qui m'a beaucoup modifié. J'étais pas trop bien gâté par la nature, donc les autres étaient plus forts que moi physiquement. Ils me malmenaient de temps en temps, surtout qu'à l'école, j'étais le meilleur.
En ce qui concerne la question de la pauvreté, est-ce qu'il vous est arrivé, Ibrahim Atioub, d'avoir un sentiment de honte?
Pas quand j'étais à l'école primaire, comme j'ai dit, on nous donnait des uniformes. Mais au lycée, quand même, il est arrivé des moments de dénuement assez prononcés où c'était... Est-ce que je peux l'appeler un sentiment de honte? La conscience de l'injustice a été très précoce chez moi. Donc, ce n'était pas un sentiment de honte, c'était plutôt un sentiment de révolte. Prêt à la lutte, au combat, en principe, le niveau que j'avais à l'école, j'aurais dû être boursier. De la sixième à la troisième, je ne l'ai jamais été. Normalement, j'aurais dû même être boursier à l'internat. Je l'ai revendiqué, mais personne n'a jamais accepté de résoudre le problème, alors que je voyais d'autres élèves boursiers à l'internat et ils étaient très loin de moi en termes de performance scolaire.
Et d'où venait cette discrimination, justement ?
Je ne sais pas, c'était probablement le clientélisme. Je me disais, c'est parce que mon père n'a pas les moyens de venir au lycée, intervenir auprès des autorités pour qu'on me donne ce à quoi j'avais droit. Donc, je le constatais et je m'en arrêtais là. Ça, c'était le champ à mon père, c'était un vaste terrain.
Nous sommes, Ibrahim Atioub, à l'ombre d'un des grands manguiers plantés par votre frère, votre grand frère.
Mon grand frère, Abdoulaye Atioub, c'était l'aîné de ma famille. Et donc, très tôt, pour subvenir aux besoins de la famille, il était là pendant l'hivernage pour les cultures. C'était un dur à cuire au travail, c'est le souvenir que je garde de lui. Et il nous menait vraiment à la trique pour les travaux champêtres et également pour l'éducation coranique. C'est lui qui m'a mis à l'école coranique. Je crois qu'il a participé à la décision qui m'a mis aussi à l'école française. Le jour où je devais commencer mes études en 62, c'est lui qui m'a mis sur une jument. Et entre nous, un baluchon qui contenait le peu d'habits que j'avais et qui m'a amené à Mbour pour démarrer l'école. Et à la fin du mois de juin, il revenait toujours me chercher pour les travaux champêtres. Au mois d'avril 72, il a eu un accident tragique. C'était un apprenti chauffeur. La voiture, le camion dans lequel il travaillait, s'est embourbé. Il s'est mis sous le camion pour désensabler les pneus. Et le chauffeur a démarré sans se rendre compte qu'il était encore sous les pneus. Et c'est comme ça qu'il est mort d'un accident de voiture. J'étais en classe de 3e. Et là, à la suite de la cérémonie mortuaire, mes parents m'ont convoqué pour me dire que ton projet de faire des études longues, d'aller jusqu'au baccalauréat pour ensuite aller à l'université, parce que chaque fois qu'on me demandait, je disais que je veux être médecin. Ils m'ont dit que ça, ce n'est plus possible. Parce que tu es le deuxième garçon le plus âgé de la famille du côté de ta mère. Donc, tu es obligé d'arrêter les études et d'aller vers une formation professionnelle. Et mon oncle a choisi que je devais aller faire le concours d'entrée à l'école normale. Je devais faire l'école normale en 4 ans, devenir instituteur, donc avoir un salaire et pouvoir supporter la famille. Donc, cette décision a été prise à la suite du décès de mon grand frère, qui est à l'origine de la première plantation de manguiers sur le champ où nous sommes. Et ce grand frère, le champ qu'il a essayé de mettre en valeur, j'en garde aussi un très bon souvenir.
Est-ce que ça fait partie des douleurs les plus profondes pour vous, la perte de ce grand frère? Parce que non seulement c'est la douleur de l'avoir perdu, mais au même moment, pour vous, en quelque sorte, c'est double peine, puisque dans le même temps, votre famille vous dit « tu ne seras pas médecin ».
Oui, surtout qu'à cet âge, à 17 ans, mon grand frère, qui devait en avoir à peu près 25, était à la fleur de l'âge. Donc, je n'avais jamais imaginé qu'il puisse mourir. Et ce qu'on peut retenir de ce grand frère, c'est d'abord son côté travailleur. C'était vraiment quelqu'un qui était un travailleur acharné. Et il était aussi le soutien de la famille. Donc, perdre un élément aussi stratégique dans une famille pas très à l'aise, vous mesurez le poids de cette perte. Et donc, la famille a décidé que je devais modifier mon parcours pour avoir une formation professionnelle, intégrer la fonction publique qui était la sécurité. Dans ces années 70, on était au moins assuré d'avoir un salaire. Donc, c'était extrêmement douloureux pour moi de renoncer à mon projet de devenir médecin. Bon, je me suis malgré tout rattrapé, puisque mon fils, qui était un très bon littéraire, j'ai réussi à le convaincre de faire les sciences. Et aujourd'hui, il est neurochirurgien et il enseigne à la fac. Est-ce qu'il aime son métier? Est-ce que le fait d'avoir influé sur sa vie, peut-être que j'ai eu tort de le faire, mais c'était plus fort que moi. J'ai voulu qu'il soit médecin, vraiment.
Vous êtes également très fier de votre fille?
Oui, Astumben Tchoub, elle est journaliste. Elle me dit souvent, ça a été dur, mais je te remercie et je suis fier de ce que je suis devenu.
En français, on dit les chiens ne font pas des chats. Et en wolof?
Kewel du tep dom djebet. L'antilope ne peut pas sauter et son petit passer par en bas.
Ainsi s'achève le premier épisode de notre portrait consacré à Ibrahima Tchoub à l'école de la réussite. Un documentaire signé Valérie Nivelon et mis en onde par Elliot Bourrel et Sophie Janin avec la complicité de notre stagiaire Juliette Flamand. Plus d'infos et de photos sur notre page RFI.fr et Facebook. N'hésitez pas à réagir, écrivez-nous, exprimez-vous. Cette émission, c'est la vôtre.